Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Nathanaël Schmitt. Il est président des Jeunes Démocrates de Bretagne et il est venu spécialement au micro de la matinale pour être avec nous ce matin en direct. Je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
On va parler de politique ce matin. J'avais envie de commencer par ces relations de plus en plus, allez, on peut dire tendues entre l'Europe et les États-Unis. On va y ajouter la France, évidemment, puisque par essence même, nous faisons partie de l'Europe. Coup de bluff du président américain qui veut annexer, par exemple, le Groenland, qui veut instaurer des taxes douanières assez importantes. En gros, qui veut un peu nous tordre le bras, il faut bien le dire, en matière économique.
Oui, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant, je dois dire. Dans son discours de politique générale, pour commencer en citant Monsieur le Premier ministre, il a dit que si nous faisons rien, nous allons être dominés, écrasés et marginalisés.
C'est pas rassurant.
C'est pas rassurant. Et je pense qu'il a bien résumé la chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est qu'il faut que l'Europe prenne sa place et se réveille. Et quand Monsieur Trump, c'est vrai. Fait c'est pas vraiment des questionnements sur le Panama, enfin le canal du Panama, le Groenland ou encore le Canada, il y a de quoi vraiment s'interroger. Et dans tout ça, je pense qu'il y a une logique qui est assez assez importante et qu'il faut soulever, c'est l'OTAN, comment ça fonctionne, enfin l'organisation, le traité militaire qui allie l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. L'OTAN fonctionne avec trois principes. On dit les trois C. C'est coordination, capacité ou cash. En gros, c'est chacun va apporter selon sa contribution. Coordination, un savoir-faire, un savoir-faire militaire par exemple, capacité des troupes ou cash.
Ça se passe de commentaires.
Voilà. Et il semblerait que le nouveau président américain fonctionne seulement avec cette troisième lettre et que tout fonctionne par l'argent, que ce soit du coup l'imposition de droits de douane ou alors justement le fonctionnement des autres alliances. Et il dit, selon ses mots, que l'Europe maltraite les États-Unis en ayant un excédent commercial à cause notamment de la vente de voitures ou de produits agricoles. J'aimerais savoir pourquoi, en produisant sur notre territoire, on devrait acheter des produits agricoles qui plus est peut-être de moins bonne qualité et des voitures aussi. Donc c'est vrai que ça pose question.
Avec quand même peu de protestations, on n'a pas entendu de protestations très vives de la part des pays européens, y compris du Danemark, hein, si on se projette sur le Groenland. Est-ce que l'Europe ou l'Union européenne, plus précisément, a peur de vexer Donald Trump, a peur de sa réaction, de sa colère peut-être, ou de son côté un peu imprévisible?
Je pense qu'il y a cette peur, hein, très clairement. On se demande pourquoi Ursula von der Leyen, pourtant présidente de la Commission, ne fait presque aucune déclaration sur le sujet. On sait simplement que la présidente danoise, ou première ministre, je ne sais plus. La première ministre a eu un coup de téléphone avec Donald Trump et qu'apparemment ça ne s'était pas bien passé. Et je me demande pourquoi le Danemark ne reçoit pas plus de soutien. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Je voulais en venir.
Voilà, vous parliez du Danemark, effectivement, on s'étonne finalement du peu de réaction, même du pays, finalement.
Oui, pour moi, ça va aussi dans cette même logique avec l'OTAN. Il y a cette peur des conséquences. Et les conséquences, elles sont déjà économiques. On a parlé des droits de douane et militaires, parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a quand même ce facteur qui est de plus en plus important. Et si les États-Unis retirent leur soutien, que ce soit militaire ou financier au niveau de l'OTAN, et si les États-Unis imposent ces droits de douane, dans tous les cas, il va y avoir des difficultés très claires pour les budgets et les États européens.
Alors justement, les budgets, ils sont fragiles. On va venir, on va y venir dans un instant avec le budget français qui n'est pas encore voté. C'est très compliqué, on l'aura compris. Mais aujourd'hui, on voit quand même aussi l'obligation, j'allais dire, pour les pays européens, pour l'Europe, par exemple, de revoir sa politique. On a une Europe qui se réarme aujourd'hui. Il y a une peur, il y a une crainte dans un contexte géopolitique très très bouleversé, très compliqué. Est-ce que finalement, ce que fait Trump aux États-Unis avec justement, par délucubration, il faudra bien le dire ainsi, est-ce que finalement ça ne va pas être un petit plus pour l'Europe, pour une prise de conscience, pour booster par exemple la mise en place d'une défense commune en Europe?
C'est ce qu'on espère en tout cas très clairement. S'il y a bien un avantage à le résultat de cette élection, on espère que ce sera une renaissance un peu de l'Europe et en tout cas de la politique de défense qui actuellement n'existe pas très clairement. Et il faut aussi rappeler que depuis la fin de la guerre froide, on a vraiment eu un désarmement au niveau des pays européens et qu'aujourd'hui, les budgets des armées dans la majorité des États européens sont toujours inférieurs à ceux de pendant la guerre froide, alors qu'on est dans un état où le conflit est réel sur le territoire européen.
Avec un conflit qui est aussi, pas seulement, j'allais dire, sur le terrain militaire, il est aussi virtuel. Aujourd'hui, on voit les cyberattaques, on voit cette fameuse guerre asymétrique dont on parle beaucoup. Est-ce que là aussi, on a du retard technologique au moment où la Chine sort son intelligence artificielle défiant toute concurrence, nous dit-on, et où les États-Unis, et là encore, ça nous ramène à Donald Trump et à un certain Elon Musk, font pression, finalement, pour que nous soyons dépendants de leur technologie?
Ah oui, c'est clair. Là encore, malheureusement, on a du retard. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut... Je ne sais pas si vous avez vu passer le flop de l'IA française financée par l'État, qui a déjà été retirée, enfin suspendue, parce qu'elle ne savait même pas résoudre une multiplication. C'est assez inquiétant.
Ça dit quelque chose. De notre pays, de la France, mais plus largement de l'Europe, qui, pendant des années, peut-être, a vécu sur ses acquis, y compris au niveau technologie et nouvelles technologies, et n'a pas développé.
Je pense qu'il y a aussi quelque chose, un problème à résoudre dans la recherche et dans le financement, surtout de la recherche, parce que beaucoup des personnes qui participent à la création d'innovations, notamment dans la Silicon Valley, sont des Européens. Et on n'a pas su les garder sur le territoire européen pour que ces innovations, j'ai envie de dire, nous profitent plus directement. Et du coup, de ce côté-là, c'est vraiment dommage.
Il faut donner plus de moyens à la recherche. Alors ça nous amène directement au budget. On va être un peu plus franco-français, si vous me le permettez. Mais il faut donner plus de moyens à la recherche, quitte bien à déroger un petit peu au budget et aux économies à faire.
La difficulté, c'est que le budget dans la situation de déficit dans laquelle on est, c'est très clairement des choix. Des choix et des priorités. Aujourd'hui, la priorité, effectivement, c'est celle de réduire le déficit. À moyen terme, on vise 2029, enfin le gouvernement vise 2029 pour revenir à un déficit qui respecte les règles de Maastricht à 3%. Je pense que c'est difficile... Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Beaucoup, en ce moment, il y a pas mal de blocus et de contestations dans les universités qui parlent d'un budget d'austérité. Je ne suis pas sûr qu'un budget d'austérité, ce soit un budget qui ajoute 200 millions de crédits au ministère de l'Enseignement supérieur par rapport à l'année précédente. Certes, il y a des coûts de fonctionnement qui sont élevés, certes, il y a des coûts de fonctionnement qui continuent à monter, mais il faut aussi dire la réalité. Dans ce budget, la recherche, c'est quelque chose d'important. Et François Bayrou l'a dit, il veut miser sur l'intelligence artificielle, rattraper le retard. Est-ce qu'on va y arriver? Ça, c'est encore une autre question. Et je pense qu'il faudra se baser vraiment sur l'Europe pour ce domaine-là, en tout cas.
Voilà, on sera plus sur un projet européen qu'un projet d'État ou franco-français.
Ça paraît plus réaliste, en tout cas.
avec effectivement un budget dur à mettre en place et à voter, puisqu'on a compris qu'il y avait des oppositions. Il y a la réforme des retraites qui ne passe pas à gauche. Il y a des lignes rouges du côté du Rassemblement national. Donc on a l'impression d'un gouvernement Bayrou, un petit peu comme le fut celui de Michel Barnier, en suspens, ou en tout cas avec cette forme d'épée de Damoclès. Alors comment résoudre, si on peut la résoudre cette équation finalement, comment résoudre cette équation de continuer à économiser mais de continuer à faire fonctionner le pays dans ses missions, dans la santé, dans la justice, dans la police, etc., dans tout ce qui est régalien finalement. Est-ce que finalement on peut résoudre cette équation où on est condamné à encore une censure?
Bah, d'abord, je reprendrai les mots de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Le coût du compromis, il est infiniment préférable à celui de la censure. Déjà, on a vu qu'avec la première censure, on estime à une perte de 0,3 points de croissance, parce que effectivement, l'instabilité et l'affolement des marchés financiers, des agences de notation de la dette, etc., ça nous coûte. Ça nous coûte vraiment.
Elles sont toujours en embuscade, hein, ces agents de notation.
Et c'est pour ça qu'une deuxième censure serait vraiment là très, très, très... Enfin, pour avoir des dommages vraiment importants. Donc, le coût du compromis, il faut le faire. Mmh. Mais je pense notamment aux socialistes. Du côté des socialistes, eux aussi doivent entrer dans ce compromis-là. Et malheureusement, c'est ce que le NFP, dans son ensemble, n'a pas réussi à faire. Et c'est pour ça que les socialistes, petit à petit, se trouvent détachés, ou en tout cas presque jetés par Jean-Luc Mélenchon, en tout cas.
Et encore, ils ne sont pas d'accord entre eux.
Voilà, c'est ça.
Puisqu'on a quelques députés socialistes qui ont voté, finalement, la motion de censure.
Donc, voilà, de ce côté-là, c'est le questionnement, c'est est-ce que ce parti, normalement, de gouvernement, va porter ses responsabilités? Parce qu'aujourd'hui, si en février 2025, la France n'a toujours pas de budget pour 2025... ça commence à être très compliqué. Et d'ailleurs, si une censure passe, ça veut dire qu'il n'y a plus de gouvernement non plus.
Et février, ça arrive vite, hein, finalement.
Ça arrive très vite.
Nous sommes dans la dernière ligne droite du mois de janvier.
Voilà. Autrement, c'est... Donc, on a parlé du compromis sur le budget. Et le deuxième aspect, c'est est-ce qu'on peut continuer à, du coup, financer les services de l'État, le régalien, etc. Bon, déjà, les investissements et les crédits qui avaient été engagés pour le ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Armées, sont respectés. Bon, ça, c'est sur le régalien, on reste dans les engagements. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est que il y a encore une fois des choix qui sont faits en fonction de ce qu'on peut ou pas, à court terme, enlever de crédit, par exemple. Et ça, j'en suis très triste. C'est que le ministère de la Transition écologique perd 1 milliard de fonds par rapport à l'année 2024.
Avec le risque de censure des écologistes.
Oui, avec le budget tel qu'il est à peu près fixé. Donc évidemment, ça fait très mal. Pourquoi ce ministère-là est parmi ceux qui sont touchés? C'est parce que c'est des dotations d'investissement. Mmh. Alors qu'un ministère comme l'Éducation nationale ou comme le ministère des Armées, c'est du personnel, c'est des fonctionnaires. Donc forcément, on peut pas réduire la dotation à ce point-là. Voilà. Et donc, il y a cet aspect des dotations. Et à moyen, long terme, l'autre aspect, et que François Bayrou a redéveloppé hier, c'est qu'il y a tout un tas d'agences, et en fait, dans le fonctionnement de notre pays, qu'on peut revoir, en fait.
On a un peu moqué François Bayrou qui veut monter une agence pour démanteler quelques-unes des 1000 agences. Elles sont
1244, je crois.
Voilà, alors vous avez le chiffre précis. on a un petit peu raillé là-dessus, mais on a urgence aussi à simplifier pour faire des économies.
Pour moi, c'est très clair. L'administration française, il y a énormément de bons, mais... Quand on parle de bureaucratie, c'est qu'il y a une logique de pouvoir interne à cette administration qui s'est mise en place. Et cette bureaucratie, elle n'a pas lieu d'être et elle empêche de bien avancer et d'avancer efficacement. Donc, parmi ces 1244 agences, le but, ce n'est pas de raser la moitié et de dire « elles servent à rien », évidemment. Le but, c'est de rationaliser et de dire « est-ce que ça fonctionne optimalement ?» est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on peut améliorer et donc gagner en efficacité et donc gagner en fonds qui ne seront pas accordés ici, mais qui peuvent être mis autre part.
Avec un côté éminemment politique, on peut imaginer des agences comme l'ADEME ou encore comme l'agence, l'Office français de la biodiversité, oui, qui est un peu dans le collimateur actuellement. Il y a un côté là aussi éminemment politique. Comment faire des choix finalement? Comment trancher?
Je pense encore une fois, il faut... C'est pour ça que ça peut être intéressant d'avoir une agence spéciale qui fait ses audits et ses études pour savoir le plus objectivement possible qu'est-ce qui relève de l'efficacité ou de la non-efficacité, justement. Et il faut le plus possible éviter d'être dans le politique, parce qu'évidemment, l'Office français de la biodiversité, c'est un peu l'image actuelle de ce combat entre agriculteurs et normes qui peuvent parfois être mal vécues, et ça se comprend, mais ça ne veut pas dire qu'un camp a raison et que l'autre a tort. Et c'est, pour moi, c'est de la mauvaise politique que de faire ce discours, et c'est monter des acteurs les uns contre les autres, et on n'avance pas quand on fait ça.
Avec, on le disait tout à l'heure, un impact économique important, aujourd'hui on a le monde économique en attente. On a entendu le président du MEDEF s'exprimer, mais aussi de nombreux petits entrepreneurs qui aujourd'hui n'investissent pas, n'embauchent pas parce que on ne sait pas tellement où on va, on navigue un peu à vue, hein, c'est ce que l'on entend. Il y a urgence là aussi à voter le budget pour faire repartir le monde économique, pour lui redonner confiance.
Oui, le mot que vous avez utilisé, la confiance, et c'est vraiment le mot qui prime quand on parle de prévision en termes économiques. Quand il n'y a pas la confiance, c'est l'incertitude. Et l'incertitude, c'est l'inverse de l'investissement, c'est l'inverse de la croissance. L'incertitude, c'est ce qui nous empêche d'avancer, très clairement. Et le monde économique attend, que ce soit du côté des syndicats ou du côté des chefs d'entreprise ou des employés, tout le monde attend qu'on ait une hauteur de vue un peu sur la situation. Et ça, c'est pour ça qu'on doit avancer. On ne peut pas se permettre d'encore ne pas avoir de budget.
Avec aussi une grande inquiétude sociale, on voit depuis quelques mois ces plans de licenciement qui touchent aussi la Bretagne. On pense à la fonderie de Bretagne et divers sites qui ont fermé ici et un peu partout en France. On pense à Michelin également. Avec aussi une vision à gauche, hein, en disant voilà, il y a des grandes entreprises qui ont reçu beaucoup d'argent de la part de l'État, des financements, des subventions pour faire simple, et qui aujourd'hui ferment des sites. Est-ce qu'il faut remettre en cause l'obtention justement par ces grandes entreprises, obtention, j'allais dire presque automatique, de subventions pour investir, etc., et pour voir des sites fermés quelques années plus tard?
En logique économique, le problème, c'est que, ça va peut-être paraître très libéral de dire ça, mais quand une entreprise ne fonctionne pas, elle finit par fermer. Et quand une entreprise fonctionne presque sous perfusion à coup de subvention, ça peut poser question sur sa capacité à perdurer. Alors évidemment, il y a quelque chose de nécessaire et très important, c'est de préserver l'emploi. Alors maintenant, comment faire coïncider ces deux enjeux de garder des entreprises efficaces qui marchent et qui participent à la croissance tout en préservant l'emploi? Là, je pense qu'un des enjeux, c'est la formation continue. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui avance très rapidement en termes, notamment avec la révolution numérique. Et sans formation continue, on ne peut pas adapter les compétences de ceux qui sont déjà sur le marché du travail et dont les compétences pourront malheureusement être obsolètes d'ici quelques années, décennies. Donc, pour ça, il faut vraiment avancer du côté de la formation continue.
Qu'est-ce qu'on va faire finalement, la question est peut-être un peu provocante, qu'est-ce qu'on va faire de ces chômeurs qui vont aller pointer demain à France Travail? On a vu cette augmentation inédite depuis une dizaine d'années du nombre de demandeurs d'emploi. Comment faire pour les remettre sur le chemin de l'emploi avec souvent des gens qui sont en fin de carrière aujourd'hui? Ça nous ramène à la réforme des retraites, là encore, un sujet qui fâche. On entend la gauche qui, dans son ensemble, est plutôt pour une abrogation. On entend le Premier ministre qui dit non, il faut retravailler cette réforme des retraites. Là aussi, est-ce que l'équation est très difficile? Est-ce que c'est insoluble? Ou est-ce que là aussi, il va falloir aller au compromis?
Dans tous les cas, pour moi, c'est très centriste de dire ça, mais dans tous les cas, il faut du compromis. Sur la question de l'emploi qui remonte beaucoup et de manière assez, comme vous l'avez dit, inédite depuis plusieurs années.
Depuis 10 ans, hein,
depuis
c'est ce,
10
que,
ans.
Ce que dit France Travail. Hein.
Dans ce chômage-là, il y a le chômage des jeunes qui est particulièrement important. Et il ne faut pas oublier que il y a différents types de chômage et qu'il y a notamment un chômage frictionnel. Mmh. Et ce chômage-là, il se, j'ai envie de dire, résout tout seul dans le sens où c'est le temps de trouver un emploi, que mmh. ce soit pour un entrant ou pour quelqu'un justement qui est maintenant au chômage, qui a quitté son emploi pour X ou Y raison et qui le temps d'en trouver un autre. Donc, j'entendais un économiste ce matin dire qu'il faut attendre plusieurs trimestres quand même avant de tirer des conclusions plus concrètes sur ce chômage-là. Sur la réforme des retraites, sur l'âge de départ à la retraite notamment, parce que c'est un peu là que le bât blesse. Je pense que ce conclave un peu composé par le Premier ministre, c'est vraiment quelque chose de très important. Les conditions dans lesquelles la réforme des retraites a été prise n'étaient pas du tout satisfaisantes. Et aujourd'hui, il faut la retravailler. Et il y a beaucoup de choses à mieux faire, notamment sur les carrières longues. Parce que, en vérité, les carrières longues, les personnes qui sont dans cette situation sont souvent les mêmes qui peuvent être touchées par le c'est très moche à dire, l'obsolescence des compétences, mmh. mais enfin, c'est très moche à dire. Ça peut être les mêmes. Donc, de ce côté-là, il faut voir comment les aider soit à la reconversion, mmh. soit à une retraite qui peut être anticipée de par la durée de leur carrière.
Avec, là aujourd'hui aussi, concomitant finalement à cette demande sociale, des élections ont eu lieu, hein, je ne vous apprends rien, on parle éventuellement d'une instabilité politique, voire même institutionnelle. Et il y a cette demande sociale, là encore, on a vu ces votes assez importants pour le Rassemblement national. Est-ce que là aujourd'hui, il faut tirer la sonnette d'alarme et se dire, attention, on est sur une pente un peu fatale?
Très clairement. Non, très clairement. Aujourd'hui, on parlait de visibilité et d'incertitude. Elle n'est pas économique, elle est très clairement politique. Mmh. C'est difficile de faire des prévisions. Et je suis pas Madame Irma, donc je vais pas m'y risquer. Mais dans le citoyen, il a besoin qu'on réponde à, un, ses besoins, et deux, du coup, ses revendications.
Par exemple, sur le pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est ce voilà. qui préoccupe les Français beaucoup, la sécurité également, par exemple.
C'est ce que j'allais dire, c'est les sujets principaux qui préoccupent. Alors, si dans les camps, j'ai envie de dire modérés, on ne présente rien pour répondre à ces demandes, bah évidemment que les électeurs vont se tourner vers des personnes qui, peut-être de manière populiste, et quand je dis peut-être, j'enlève le peut-être, de manière populiste, présente des solutions très simples pour des problèmes très compliqués. Ça paraît peut-être un peu bizarre, ça peut paraître un peu simple, mais c'est le cas. Et au bout d'un moment, quand il y en a marre, et bah, les gens se tournent vers des solutions plus radicales. Alors, pour moi, le travail qu'il faut faire, c'est avoir cette pensée, notamment sur les questions de sécurité, sur... Et puis en plus, bon, dans tout ça, on mélange avec l'immigration et tout ça. Il faut prendre le terrain sur ce sujet-là. Il faut prendre le terrain sur le pouvoir d'achat. Il faut prendre le terrain sur l'écologie. Tout ça, il faut prendre le terrain parce que sinon, effectivement, bah, les personnes se tournent vers des discours qui sont bien plus extrêmes.
Ça nous ramène un peu à Donald Trump avec une Europe et une France même qui devient un peu chaque jour un peu plus populiste. Là aussi, on peut avoir une inquiétude à long terme.
Bah oui, d'ailleurs, on parle des États-Unis, de la France, mais c'est, si c'était réduit seulement à ces deux pays-là, ça serait très bien. C'est pas le cas.
Et, on peut élargir à l'Europe.
On peut élargir à l'Europe, on peut élargir à l'Amérique du Sud, on peut élargir à beaucoup, beaucoup de pays, malheureusement. Et je pense qu'il y a quelque chose dans tout ça qui peut être une des causes, enfin, en tout cas, peut-être une des influences sur la propagation du populisme, c'est quand même les réseaux sociaux. Parce que ça ouvre une porte, ça ouvre une voie très claire à ce type de discours, et ça leur donne une visibilité bien plus importante.
Faut les réglementer, ces réseaux sociaux aujourd'hui, justement pour éviter que tout y circule, plus souvent le mauvais d'ailleurs que le bon en termes de fake news, de fausses informations, on va parler français, mais aussi de harcèlement, de violence aussi, et parfois même, allez, on va aller jusque-là, d'ingérence. On a vu la polémique autour d'Elon Musk ces derniers temps. Là aussi, il faut être assez ferme. L'Europe n'est pas assez ferme face à ces formes d'ingérence politique, on peut le dire.
Ça, c'est la grande question. Et je pense que peu de gens sont d'accord là-dessus. On a actuellement les règlements et les règles au niveau de l'Union européenne nécessaires pour contrôler les grands réseaux sociaux. On a les règlements DSA et DMA. On a les armes nécessaires pour contrôler ça. Et d'ailleurs, ces dernières années, il y avait eu des avancées, notamment Facebook comme X qui s'était plié à un certain nombre de règles de modération sur les messages haineux, sur les apologies du terrorisme, etc. Enfin, tout ça, on a eu des avancées. Aujourd'hui, notamment avec les dérapages incontrôlés d'Elon Musk et le Meta qui rebrousse le terrain en virant presque tous ses modérateurs.
On a l'impression que les verrous ont sauté là depuis l'arrivée de Donald Trump.
Et je pense que on revient à cette logique du cash de l'économique, parce que une des raisons pour lesquelles les Jeff Bezos et les Mark Zuckerberg se sont ralliés, pourtant après avoir porté des discours favorables aux démocrates et les années précédentes, ils ont peur des sanctions de Donald Trump. Et plus encore, ils ont envie de se procurer des nouvelles parts de marché. Et donc ça, c'est la logique pécuniaire, elle est très clairement là. Après, si on part sur du plus idéologique, c'est vrai que ça devient compliqué parce que, comme vous l'avez dit, vous avez parlé d'ingérence. Elon Musk, actuellement, on ne sait pas ce qu'il fait. Enfin, on ne va pas forcément parler du salut dit nazi. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Ce qui pose question, c'est quand même que depuis plusieurs semaines, il soutient très activement l'AFD, le parti d'extrême droite allemande, dont les thèses flirtent plus ou moins de manière très proche avec certaines thèses néo-nazies. Et il a même dit que l'AFD était le dernier espoir pour l'Allemagne. Alors quand on entend un discours comme ça, ça pose question très clairement.
Ça résonne aussi avec les commémorations des 80 ans la libération des camps. On pense à Auschwitz, évidemment, c'était hier, mais voilà, c'est d'actualité. Un dernier mot, on parle des réseaux sociaux. Très souvent, quand on évoque les réseaux sociaux, on évoque la culture. Vous me voyez venir. Aujourd'hui, en tout cas hier soir, la ministre Rachida Dati, la ministre de la Culture, fait ses voeux, hein, comme c'est la tradition, avec une inquiétude du monde de la culture aujourd'hui, avec, là encore, ça nous ramène au budget, il nous reste 2 minutes, alors on va aller très vite, mais ça nous ramène au budget. Il faut tailler dans le budget de la culture, il faut essayer de préserver la culture, c'est un rempart aujourd'hui contre les idées qui peuvent cheminer dans notre société.
La culture, c'est évidemment très important, mais pour moi, le premier rempart le premier rempart et la première formation de l'esprit critique, c'est quand même l'école républicaine. Donc de ce côté-là, pour moi, si on devait faire un choix, en quelque sorte, ça serait plutôt du côté de l'éducation. Après, la culture, c'est absolument nécessaire. Et je pense que c'est aussi, en étant conscient de ça, que Rachida Dati propose d'autres formes de financement, et notamment ce qui a un peu fait jaser, mais le fait de payer l'entrée à Notre-Dame, par exemple, pour arriver à continuer à financer ce milieu-là.
Voilà. Il faut adresser très vite un message fort au monde de la culture qui s'inquiète.
Non, je sais pas. Je pense que de toute façon, l'État est là, il continuera à être là. Après, de quelle manière, ça, bon, je ne sais pas.
Pour vous, voilà, un petit. Vous me disiez, je ne suis pas Madame Irma. On va aller vers une nouvelle motion de censure. Vous pensez qu'on pourra l'éviter?
Moi, je pense qu'on peut l'éviter.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Nathanaël Schmitt, président des Jeunes Démocrates de Bretagne. Vous vouliez dire un mot?
Oui, je voulais juste dire notre soutien à toutes les personnes qui ont été touchées par les inondations de ces derniers jours, en Ille-et-Vilaine notamment, et remercier les pompiers et toutes les personnes qui se portent bénévoles aussi pour nettoyer et aider les personnes qui sont dans le voilà, dans le besoin.
Voilà, évidemment, nos pensées vont vers ces personnes très impactées, en Ille-et-Vilaine en particulier. En ce moment, Nathanaël Schmitt, président des Jeunes Démocrates de Bretagne, était avec nous. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci, vous aussi.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.